Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 90, Daf Tzadik. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Vochelet begino Touma, voici que nous voyons dans cette baïta que grâce à lui elle peut consommer la Touma, et cela bien que ce mariage de la Torah n'a aucune valeur. La Gemara répond, Betouma de Rabbanan. En fait, il s'agit d'un cas. Les Chachamim ont juste permis de consommer la Touma midrabanan, c'est-à-dire minatora. Le prélèvement de la Touma n'est obligatoire que pour les céréales, les raisins ou le vin et l'huile ou les olives. Pour tout le reste des fruits et des produits de la terre, le prélèvement de la Touma est midrabanan. C'est là-dessus que les Chachamim ont permis à cette femme, à la suite de ce mariage, de consommer la Touma. Mais en fait, nous ne voyons toujours pas que les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Nous avons fini le shiur de Yebamot Daf Petet. Nous commençons le shiur de Yebamot Daf Tzadeh. Nous avons vu précédemment l'avis de Rav Chisda qui prétendait que les Chachamim avaient la possibilité d'annuler une mitzvah de la Torah. Là-dessus, il essaie de prouver son opinion. Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Il s'agit à propos de quelqu'un qui consomme de la Touma par inadvertance. L'alakha est que celui qui consomme de la Touma par inadvertance devra, pour dédommager le Kohen, rembourser cette Touma. Il ne pourra pas rembourser en espèces, il devra donner des fruits qui deviendront à leur tour Touma. Alors la Braïta dit, Achal Touma Tmea, celui qui consomme de la Touma impure, Meshalem Choulim Teorim, il devra rembourser de la nourriture Choulim, qui n'a pas la kdusha de Touma, et cela en fruits purs. La Gemara expliquera. Shilem Choulim Tmeim, s'il a remboursé des fruits de Choulim impurs, Sumchusomem Shum Rabbi Meir, Beshogeg Tashlumem Tashlumim, s'il a fait ce remboursement en fruits impurs par inadvertance, son remboursement est un bon remboursement. Il ne devra pas à nouveau rembourser au Kohen. Bemezid En Tashlumav Tashlumim, par contre, s'il l'a fait volontairement, il devra rembourser à nouveau le Kohen. Ce premier remboursement n'est pas considéré un remboursement. Dans les deux cas, son remboursement sera considéré un bon remboursement, c'est-à-dire ses fruits resteront chez le Kohen. Il devra à nouveau rembourser le Kohen en fruits purs. Et on a posé une question à propos de cette braïta. Quand il paye au Kohen des fruits impurs, volontairement, la Braïta a dit, selon l'avis de Rabbi Meir, que ce remboursement n'est pas un remboursement. En d'autres termes, la Gemara comprend ici que le Kohen devra rendre ses fruits au propriétaire. La Gemara demande, ta voix la bracha, il devrait être béni pour lui donner des fruits impurs. Parce que finalement, il a pris au Kohen, il a mangé de la Touma qui appartenait au Kohen, quelque chose qu'il ne pouvait pas consommer quand il était impur. En effet, le Kohen, s'il est pur et s'il consomme de la Touma impure, aura transgressé un commandement positif, comme c'est expliqué plus haut, d'Afain Gimel Amud Bet. Et si ce Kohen est impur, il sera condamné à mort, Minashamayim. Donc là, il a consommé quelque chose que le Kohen ne pouvait pas consommer, et il lui rembourse en employant des fruits que théoriquement il aurait pu consommer quand il était impur. Il est vrai que, à la suite de ce remboursement, ces fruits auront la kdusha de Touma et le Kohen ne pourra pas les consommer. Mais en tout cas, puisqu'il avait l'intention de rembourser au Kohen quelque chose de mieux que ce qu'il a pris, alors au contraire, il devrait le bénir. Pourquoi est-ce qu'on le pénalise en l'obligeant de payer à nouveau? La Gemara répond, Vama Rabba, Rava. D'Amrela qui dit, et il y en a d'autres qui disent que c'est en fait la Gemara qui a répondu sans l'auteur d'un Amora. Chisure Mersera Bechaktane. En fait, il manque un morceau dans la Braïta, et c'est ainsi que vous comprendre la Braïta. Achal Trumat Mea Meshalem Koldeu. Si quelqu'un consomme par inadvertance de la Truma impure, il pourra payer n'importe quoi. C'est-à-dire soit en employant des fruits purs, soit en employant des fruits impurs. Achal Trumat Ora. Par contre, s'il consomme de la Touma qui était pure, Meshalem Choulim Teorim, il devra rembourser en employant des fruits de Choulim purs. Shilem Choulim Tmeim, si pour le remboursement, il a employé des fruits de Choulim étant impurs, Sumchusomem Shum Rabbi Meir, Beshogeg Tashlumav Tashlumim. S'il a fait ce remboursement en employant des fruits impurs par inadvertance, son remboursement sera considéré un bon remboursement. Il ne devra donc pas à nouveau rembourser au Kohen. Bemezid en Tashlumav Tashlumim. Par contre, s'il a fait ce remboursement en employant des fruits impurs volontairement, son remboursement n'est pas un remboursement. Le Kohen rendra donc ses fruits au propriétaire et le propriétaire devra à nouveau payer au Kohen en employant des fruits purs. Soit s'il a fait ce paiement en employant des fruits impurs par inadvertance, soit s'il l'a fait volontairement, son remboursement est considéré comme étant un bon remboursement, c'est-à-dire le Kohen gardera ses fruits. Il devra à nouveau payer en employant des fruits purs. La Gemara demande, selon l'avis de Rabbi Meir, voici qu'ici, il s'agit d'un cas où Mina Torah, c'est un bon remboursement. Ses fruits appartiennent au Kohen. Si le Kohen emploie ses fruits pour fiancer une femme, Tafsula Kidushé, nous dirons que ce fiançailles sont des bons fiançailles parce que le Kohen a employé des fruits qui lui appartiennent. Ve'amur Rabbanan et les Chachamim disent quand même, En Tashlumav Tashlumim, que ce remboursement n'est pas un remboursement, Ve'kacharinan et Shetish Le'alma, et par ce fait, nous permettons une femme mariée de se marier avec quiconque, en disant qu'en fait, les fiançailles n'ont pas pris effet. Alors comment est-il possible que les Chachamim ont pu annuler une mitzvah de la Torah? La Gemara répond, Ma'en Tashlumav Tashlumim de Kama Rabbi Meir, qu'a voulu dire Rabbi Meir quand il dit que le remboursement de ces fruits impurs n'est pas considéré comme un bon remboursement. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il doit à nouveau rembourser en employant des fruits de choulin purs. Mais en fait, ces fruits appartiennent encore au Kohen. Alors, Gemara demande, c'est comme ça. Sumchus, Anu Rabbanan. Finalement, l'avis de Sumchus au nom de Rabbi Meir coïncide avec celui des Chachamim, puisque les Chachamim aussi ont dit que ce remboursement est un bon remboursement, mais il devra rembourser au nouveau au Kohen. La Gemara répond, Amar Rav Chaveret de Ravika, Kansu Shogeg Atu Mezid Ikabelayu. La discussion entre Sumchus en nom de Rabbi Meir et les Chachamim est à savoir si on pénalise celui qui transgresse quelque chose involontairement de peur qu'il le fasse volontairement. Alors, Sumchus en nom de Rabbi Meir dit que ce n'est que s'il a employé des fruits impurs volontairement pour rembourser au Kohen qu'il devra à nouveau rembourser au Kohen. Par contre, s'il l'a fait involontairement, il n'aura pas besoin de rembourser à nouveau au Kohen. Par contre, l'avis de Chachamim est que soit s'il le fait volontairement, soit s'il le fait involontairement, il devra, dans les deux cas, rembourser à nouveau au Kohen. Donc finalement, nous n'avons toujours pas de preuve à savoir si les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah minatora. Alors Tashma, viens écouter notre preuve. La Braïta dit, Dam Shenitma, du sang d'un korban qui doit être aspergé sur le Mizbéar et qui est devenu impur, en fait donc, Ce sang ne peut plus être aspergé sur le misbéar, Vezarko, et il a été quand même, ou il a été aspergé sur le misbéar. Beshogeg Hurtsa, si ce sang a été aspergé involontairement, alors le korban a été agréé, et bien qu'il s'agisse de sang impur. Bemezid Lourtsa, par contre, si ce sang a été aspergé sur le misbéar volontairement, ce korban ne sera pas agréé. La Gemara demande, voici qu'ici, il s'agit d'un cas où Mina Torah, le Corban aurait dû être agréé, même si ce sang impur a été aspergé volontairement de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta, Alma Tzitz Meratze. Sur quoi le Tzitz, qui est un des habits que portait le Kohen Gadol, agréé, c'est-à-dire quelle sorte de Corban Pasoul est agréé par ce Tzitz? Alors la Braïta répond, Al Hadam. Il s'agit d'un korban dont le sang ou la viande ou la graisse qui doit être offerte sur le misbéar, shenitma, dont l'un d'eux serait devenu impur, ben beshogeg ben memezid, soit involontairement, soit volontairement, ben beones ben beratson, soit contre son gré, soit de son propre gré, ben beyachid ben betzibur, soit s'il s'agit d'un korban individuel, soit s'il s'agit d'un korban public. Nous voyons donc dans cette baïta que par le tzitz porté par le Kohen Gadol, le korban sera agréé si l'un des composants de ce korban a été rendu impur. Donc finalement, dans le cas du sang du korban devenu impur et qui a été aspergé sur le Mizbeach, ce korban devrait être agréé, ve'amrei rabbanan, et quand même les chachamim disent, lo urtza, ce korban n'est pas agréé, ve'kahadar me'ayel chulin la'azara, et il devra à nouveau offrir un korban, et en fait c'est un korban qu'il n'est pas obligé d'offrir, et c'est donc un animal chulin qui est offert dans la cour du Bet HaMikdash. Cela est en fait une interdiction. Nous voyons donc que les chachamim ont le pouvoir d'annuler un commandement de la Torah. L'Agmara répond, Amar Rabbi Yosef Bar Hanina, Mal lo hurtza de Kamar, que veut dire la Braïta quand elle dit que le korban n'a pas été agréé, le hatir basar ba'achila. En fait, ce qu'elle veut dire, que la viande de ce korban ne pourra pas être consommée. C'est-à-dire que ce korban n'a pas été entièrement agréé. Aval be'alim nit kaprubo, mais en fait, le pardon a été accordé au propriétaire de ce korban, c'est-à-dire que par rapport au propriétaire ou à celui qui a offert ce korban, le korban a été agréé. Seulement, la viande de ce korban ne pourra pas être consommée. La Gemara demande, sauf kamita krachilat basa, finalement, par le décret de Chachamim, a été annulée cette mitzvah de consommer la viande du korban. Uktiv, et voici qu'il est écrit dans Shemot Kaftet, va'achlu ota masher kupar bahem, et les kohanim consommeront la viande de ce korban, ce qui accordera le pardon à celui qui a offert au propriétaire de ce korban. Mais la Med, cela nous enseigne, que les kohanim consomment la viande du korban khatat, par exemple, et le pardon est accordé au propriétaire de ce korban. Amarle, Rabba a répondu à Rav Chisda, Shev ve'alta aseh sha'ani. Le fait de rester inactif est différent. En d'autres termes, il est vrai que les Chachamim n'ont pas le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah quand ils disent de faire une action qui entraînerait l'annulation d'un commandement de la Torah. Par contre, le fait de dire de rester inactif et par ce fait un commandement de la Torah sera annulé, là, les Chachamim ont le pouvoir. Donc là, quand les Chachamim décrètent que les Kohanim ne consommeront pas la viande de ce korban, ils ont le droit de le faire, puisque finalement ils disent de rester inactifs et de ne pas accomplir ce commandement.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadé Amoud Bet. Amarle, Rav Chisda a dit à Rabba, Ba'ai Leoutvar, j'ai pensé te poser les questions suivantes à partir des cas suivants. Le premier cas, c'est Harel, l'incirconcis. Il s'agit de la Gemara dans Psachim d'Aftzadé Bet Amoud Alef. Bet Hillel disent que quelqu'un qui se convertit est considéré comme étant impur au même titre que quelqu'un qui a touché un mort. C'est-à-dire donc qu'il devra se faire asperger le troisième et le septième jour de l'eau contenant de la cendre de Para Adouma comme s'il avait touché un mort. Les Chachamim ont décrété cela, de peur que celui qui se convertit juste avant Pessah, alors qu'il avait touché un mort auparavant, Minatora se convertit et est considéré comme étant pur. Cela parce que l'impureté ne concerne pas les Goyim. Maintenant, si à la suite de sa conversion, il pourra tout de suite offrir le Korban Pessah, il pourrait dire la même chose l'année suivante, c'est-à-dire s'il devient impur aussi l'année suivante, il dira voilà, l'année dernière j'avais touché un mort et je pouvais quand même offrir le Korban Pessah, et cela sans se faire asperger de l'eau contenant de l'eau de Para Adouma, alors cette année aussi je pourrais faire la même chose. C'est pourquoi les Chachamim ont décrété que tout celui qui se convertit sera considéré comme étant impur, comme s'il a touché un mort, et il devra se faire asperger de l'eau contenant de l'eau de la Para Adouma. En tout cas, Minatora, celui qui se convertit juste avant Pessah et qu'il se fait circoncire, aurait le droit tout de suite d'offrir le Korban Pessah. Les Chachamim ont interdit d'offrir le Korban Pessah avant qu'il ne se purifie. Ils risquent donc de ne pas pouvoir offrir le Korban Pessah cette première année. Nous voyons que les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Le deuxième cas, c'est Hazaa, l'aspersion. Nous avons dit plus haut, nous venons de dire que celui qui se rend impur par le contact d'un mort devra se faire asperger de l'eau contenant de la cendre de Para Adouma le troisième et le septième jour. Les Chachamim ont interdit cette aspersion le Shabbat. Si quelqu'un était impur à la suite du contact avec un mort avant Pessah, et le septième jour où il devait se faire asperger la deuxième fois tombe la veille de Pessah qui tombe aussi un Shabbat, les Chachamim lui ont interdit de faire cette aspersion. Par conséquent, donc, il ne pourra pas offrir cette année le Korban Pessah. Nous voyons que les Chachamim ont le pouvoir aussi, dans ce cas, d'annuler une mitzvah de la Torah. Le troisième cas, c'est Ve'izmel et le couteau qui sert à faire la circoncision. Il est écrit dans Masechet Eruvin que les Chachamim ont interdit le port d'objets, non seulement d'un domaine public à un domaine privé, mais même dans certains domaines privés, c'est-à-dire par exemple sur les toits ou dans les jardins, aussi sous certaines conditions, le port d'objets est interdit. Maintenant, s'il y a un bébé à circoncire le Shabbat, et puis le couteau qui sert à faire la circoncision ne se trouve pas sur place, et il faut le porter d'un endroit à l'autre, les Chachamim ont interdit, comme c'est écrit dans Masechet Shabbat d'Afkouf Lamed Amoud Bet, d'emmener ce couteau par les toits. Nous voyons là aussi que les Chachamim ont le pouvoir de décréter une chose qui annulera une mitzvah de la Torah. Le quatrième cas, c'est Sadin Betzitzit. Il est écrit dans Masechet Menachot d'Afmem que les Chachamim ont interdit de mettre des tzitzit sur des habits de lin. Alors, pour la mitzvah de tzitzit, soit les habits de lin, soit les habits de laine, il faudra mettre sur eux des tzitzit. Les tzitzit sont composés de deux fils blancs, soit de lin, soit de laine, et aussi de fils de trélet, c'est-à-dire de bleu azur. Obligatoirement, ce bleu azur et cette teinture se fait sur de la laine, comme la Gemara l'explique par ailleurs. Donc finalement, en mettant des tzitzit sur un habit de lin, obligatoirement, on aura un mélange de lin et de laine qui s'appelle Shatnez, qui théoriquement est interdit min haTorah. Pour les tzitzit, la Torah l'a permis. Maintenant, les Chachamim ont interdit de mettre les tzitzit sur des habits de lin, et cela parce que les habits portés la nuit sont exemptés de la mitzvah de tzitzit. Si donc il se trouve avec des tzitzit sur un habit de lin la nuit, il transgressera l'interdiction de porter du Shatnez, un mélange de lin et de laine. Pour ne pas qu'on arrive à transgresser cette interdiction, les Chachamim ont interdit de mettre les tzitzit sur des habits de lin. Finalement donc, là, les Chachamim aussi ont fait un décret qui annule une mitzvah de la Torah. Le cinquième cas, c'est Vekivtse Atzeret. C'est les moutons offerts à l'occasion de la fête de Shavuot. C'est un korban de Shlamim public, offert en même temps que les deux pains qui doivent être offerts à Shavuot. Il est expliqué à plusieurs reprises dans Maseret Zvachim que pour l'offrande d'un korban, il faut avoir l'intention qu'il s'agit effectivement du korban qui doit être offert. Si le korban est sacrifié en pensant qu'il s'agit d'un autre korban, ce korban, bien qu'il ne soit pas pasoul, mais devient une offrande ordinaire. C'est-à-dire que la personne qui devait offrir ce korban ne s'est pas rendue quitte de son obligation d'offrir le korban. Maintenant, à propos de ces moutons offerts à l'occasion de Shavuot, si celui qui a sacrifié ce korban pensait qu'il s'agissait d'un autre korban, finalement, ces moutons, il ne s'agit plus maintenant d'un korban shlamim public, mais ça devient un korban shlamim ordinaire. Si la fête de Shavuot tombe à Shabbat, et celui qui devait offrir ses moutons les a sacrifiés en pensant qu'il s'agissait d'un autre korban, finalement, ce korban ne pourra plus servir pour les korbanot publics offerts à l'occasion de la fête de Shavuot. Les Chachamim, là, ont interdit d'asperger ce sang, puisque finalement, ce korban ne doit pas être offert à Shavuot. Minatora, le sang devait être offert, et les membres, différents membres de ce korban devaient être offerts sur le Mizbéar, et le reste de la viande devait être consommé par les Kohanim. Donc finalement là, puisque les Chachamim ont interdit l'aspersion de ce sang, si ce korban est devenu pasoul, puisqu'on l'a sacrifié en pensant qu'il s'agissait d'un autre korban, les Chachamim ici annulent trois mitzvot, l'aspersion du sang de ce korban, l'offrande des différents membres et la consommation de la viande. Nous voyons ici aussi donc les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Le sixième cas c'est le shofar. Les Chachamim ont interdit de sonner le shofar le Shabbat quand, par exemple, Rosh Hashanah tombe le Shabbat. Et cela pour ne pas qu'on risque de transporter le shofar dans le domaine public. Nous voyons ici donc que les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Le septième cas, c'est le loulav. Les Chachamim ont interdit de faire le loulav le Shabbat, c'est-à-dire quand Soukot tombe le Shabbat, et cela aussi pour la même raison qu'ils ne risquent pas de transporter le loulav dans le domaine public. Nous voyons là aussi que les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Hashta de Shanitlan. Maintenant, que tu nous as répondu. Chef Valtase, l'homme est karou, le fait de rester inactif n'est pas considéré comme une abolition d'une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire, les chachamim ont quand même le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah si les chachamim ordonnent de rester inactif et de ne pas accomplir une mitzvah. Alors, kulhu nami chef Valtase ninu. Tous les cas qui ont été cités plus haut sont aussi des cas où, à la suite d'un décret de chachamim, une personne est tenue de rester inactive et de ne pas accomplir une mitzvah de la Torah. C'est pourquoi donc je ne te poserai pas ces questions. Tashma, viens écouter une preuve d'une autre braïta. Elav tishmaoun, le pasouk dit dans Dvarim Yutret à propos du prophète, et vous l'écouterez. La braïta interprète, afilu melcha, avor alachat mikol mitzvot sheba Torah, même si le prophète te dit, va transgresser une des mitzvot de la Torah, que gon, par exemple, Eliyahu Be'ar HaKarmel, comme l'a fait Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel. L'histoire est que Eliyahu Hanavi a rassemblé tous les idolâtres sur le mont Carmel pour leur prouver qu'Akadosh Baruch Hu était le Tout-Puissant, et il a offert un corban sur un hôtel qu'il a construit sur place, alors qu'il s'agissait d'une époque où les hôtels étaient interdits en dehors de l'endroit qui était destiné pour offrir la corbanote, c'est-à-dire dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Hakol le ficha shmalo, toute chose selon son époque, tu devras l'écouter. Nous voyons ici donc là les chachamim, ou le prophète, a le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Donc ma réponse, Shani Atam, Dirtiv Elav Tishmaun. Là-bas c'est différent à propos du prophète, parce que le pasouk dit clairement, vous l'écouterez. Donc en fait, la Torah donnait spécialement la permission au prophète d'annuler une mitzvah de la Torah si l'on éprouve le besoin. La Gemara demande, Veligmar Miné, on n'a qu'à apprendre de là que les Chachamim auraient le droit d'annuler une mitzvah de la Torah s'ils en éprouvent le besoin. La Gemara répond, Migdar Milta Shahani. Là, quand le Navi a le droit de transgresser une des mitzvahs de la Torah, c'est un cas exceptionnel pour renforcer le commandement des mitzvot. Par contre, dans notre Gemara, il s'agit de dire que les Chachamim auraient le droit de faire un décret où, dans tous les cas, une mitzvah de la Torah serait annulée. Là, les Chachamim n'auraient pas le droit. Tashma, viens écouter notre preuve. Il s'agit ici de ce qui a été enseigné dans Masechet Gittin. C'est qu'une personne qui veut divorcer sa femme peut envoyer l'acte de divorce par un émissaire. Mais tant que cet acte de divorce n'est pas arrivé dans les mains de la femme, il a le pouvoir d'annuler cet acte de divorce. Mais pour le faire, il est écrit dans Masechet Gittin qu'il devra soit le dire à l'émissaire lui-même, soit envoyer un autre émissaire à sa femme et lui dire que l'acte de divorce a été annulé. Dans Masechet Gittin d'Aflam et de Bet Amud Alef, il a été écrit que avant que l'Halakha ait été instituée de cette manière, il avait le pouvoir d'annuler l'acte de divorce même sans le dire à la femme ou à l'émissaire. En effet, il avait le pouvoir de créer un tribunal dans un autre endroit et de leur dire, voilà, j'annule l'acte de divorce. Mais Rabban Gamliel Azaken a institué qu'on ne fasse plus ainsi pour ne pas que la femme se marie en pensant que l'acte de divorce est un bon acte de divorce, et il se trouve que ses enfants seront mamzerim. C'est pourquoi le Rabban Gamliel a institué qu'on ne pourra annuler l'acte de divorce qu'en le disant à l'émissaire lui-même ou en le faisant dire à la femme. Maintenant, dans Gittin d'Aflam et Gimel Amud Alef, il a été enseigné, Bitlo Mevutal. Si quand même, après que Rabban Gamliel Azaken a institué qu'on ne puisse plus annuler un acte de divorce, si ce n'est en la présence de l'émissaire ou en le faisant dire à la femme, s'il quand même il annule cet acte de divorce devant un tribunal, son annulation prendra effet et donc cette femme ne sera pas divorcée. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer dit, Eno yachol lo levatlo velo lo sivaltnao. Il ne peut pas ni annuler l'acte de divorce, ni ajouter sur certaines conditions qu'il aurait mis sur cet acte de divorce, sans le dire à l'émissaire ou sans le faire dire à la femme. Parce que sinon, imken makor bedinyafe, à quoi a servi le tribunal? En d'autres termes, une fois que le tribunal a institué qu'on ne puisse plus annuler l'acte de divorce, si ce n'est en la présence de l'émissaire ou de la femme, on ne peut plus le faire. Là-dessus, la Gemara demande, veha hachademidoraita batel get, voici qu'ici, en fait, minatora, l'acte de divorce est annulé, ou mishum makor bedinyafe. Et à cause de la raison que nous avons citée plus haut, c'est-à-dire à quoi a servi le tribunal. Et c'est pourquoi donc Rabbi Shmuel avait dit que même s'il avait annulé cet acte de divorce, l'acte de divorce ne serait pas annulé, Kasharinan Eshetish Lealma, on permettra à cette femme ou une femme mariée de se marier avec quiconque, en disant qu'en fait, cette femme sera divorcée. On voit ici que là, nous annulons une mitzvah de la Torah, ou un commandement de la Torah, et cela par une action active. L'Agma répond, « Man de Mekadesh, celui qui se marie avec une femme, celui qui donne les kiddushin, donc les fiançailles, à data de Rabbanan Mekadesh. Il le fait dans l'attention, sous réserve de l'approbation des Chachamim. En effet, toute personne qui se marie dit « Hareat Mekudeshetli, Kedat Moshe Israël, comme la loi de Moshe et le clan d'Israël. » Donc là, il le fait sous réserve de l'approbation des Chachamim. « Veafkeinu Rabbanan le kiddushin » et là, les Chachamim ont annulé l'effet de ces kiddushim. Il se trouve donc que cette femme n'était jamais mariée. La Gemara demande à Mar les Ravina les Ravashi, Hatinar de Kadish Bekaspa, on comprend encore le cas où il aurait donné de l'argent pour la fiancée, de l'argent ou une bague. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrons dire que les Chachamim ont exproprié cette pièce d'argent ou cette bague, en utilisant le principe qui a été cité plus haut, que les Chachamim ont le pouvoir d'exproprier des biens, puisqu'il a donné de l'argent, une bague qui ne lui appartenait pas, les kiddushim n'ont pas pris effet. Par contre, Kadish Bebia, Maïka le Memar, par contre, s'il l'a fiancée en ayant une relation avec elle, qui est une des trois possibilités d'acquérir cette femme, qu'est-ce qu'on pourra dire? Puisque finalement, là, les Chachamim n'ont aucun pouvoir d'exproprier ces kiddushim. L'Agma répond, Shavyu Arabana le Bilato Biladznut. Les Chachamim considéraient cette relation comme une relation de débauche. En d'autres termes, puisque il a marier cette femme sous réserve de l'approbation des Chachamim, puisque là, nous nous trouvons dans un cas où les Chachamim n'approuvent pas ce mariage, parce que cette personne a annulé l'acte de divorce et qui nous cause un problème. Alors, nous disons que les Chachamim ont annulé l'effet des Kiddushim, même s'il s'est marié avec elle, en ayant une relation avec elle. Mais là, donc nous ne voyons pas ici que les Chachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah. Tashma. Viens, écoute une autre preuve. Amar Rabbi Lazar ben Yaakov, Shamati shebedin makin ve'onshin shelo min haTorah. J'ai entendu que le tribunal a le pouvoir de battre et de punir, même si la Torah ne l'exige pas. Velo l'avoir al divrei Torah, et les Chachamim ne le font pas pour transgresser les paroles de la Torah, et là, la sot siag la Torah, mais seulement pour mettre une barrière ou un garde-fou sur les mitzvahs de la Torah. La Breta donne des exemples. Une histoire avec une personne qui a chevauché un cheval le Shabbat au temps des Grecs. C'est une interdiction. Ils l'ont amené au tribunal et ils l'ont lapidé. Au même titre que quelqu'un qui aurait transgressé le Shabbat minatora. L'homme ipnesherou le kach, et pas parce qu'il méritait d'être lapidé, et là, shahasha tzicha le kach, parce que l'époque avait besoin de ce renforcement, il fallait bien prouver que ce que les chachamim ont interdit est effectivement interdit. Veshuv, maase b'adam echad, il y a eu aussi une autre histoire avec une personne, chez Tiach b'ishto tachat atena, qui a eu une relation intime avec sa femme sous un figuier. C'est une conduite grossière et malséante. Veviuhu le bedin, et les gens qui l'ont vu l'ont amené au tribunal. Vilkuhu, et ils l'ont fait battre. L'homme ipnechera ou l'écart, et pas parce qu'il le méritait. Et là, shasha atzira l'écart, parce que l'époque demandait un renforcement. En d'autres termes, c'était une époque où il fallait bannir telle conduite. Donc nous voyons ici que les Chachamim ont le droit de punir, alors que la Torah ne l'exige pas. C'est aussi une transgression d'une mitzvah de la Torah. La Gemara répond, Migdar Milta Shani. Pour renforcer le commandement, l'accomplissement des mitzvot, c'est différent, c'est-à-dire c'est un cas exceptionnel que les Chachamim ont le droit de le faire, donc exceptionnellement. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Veloze Beze Metamila. Dire, il s'agit toujours de la femme qui s'est mariée à la suite d'un témoignage d'un seul témoin, et son mari, son premier mari est revenu. Alors la Mishnah nous enseigne ici que ni son second mari, ni le premier, si elle continue de vivre avec lui, ne se rendra impur pour elle si elle vient à mourir. La Gemara demande, mais Nalando, est-ce qu'on le sait? La Gemara répond, dire-t-il, puisque le pasuk de Vaikra Falef, dans le paragraphe concernant le Kohanim, Kim l'Ishero Akarobelav, le Kohen ne se rendra impur que pour un membre de sa famille qui est proche à lui, vers Marmar, et il a été dit par ailleurs, c'est une braïta, qui a été enseigné dans Babatra Kuftet Amudbet, She'ero Zouishto. Le terme de She'ero veut dire sa femme. En d'autres termes, que le Kohen pourra se rendre impur pour sa femme si elle vient à mourir. Urtiv, il y a un autre pasouk dans Vaikra Chafalev qui dit Lo yitama ba'al be'amav le'echalo. Un mari ne se rendra pas impur dans son peuple si c'est pour lui une dégradation. Donc finalement, nous voyons dans ce deuxième pasouk que dans certains cas, le mari ne se rendra pas impur pour sa femme. Alors nous voyons donc Yesh ba'al shemitame. Il existe un mari qui sera impur pour sa femme s'il vient à mourir. Il existe un mari qui ne se rendra pas impur. Haketzad, donc comment est-ce qu'on appliquera les deux psukim? Mitamehu le ishto kshera. Le mari se rendra impur pour sa femme si elle est kachère, si elle a le droit de rester mariée avec lui. Veno mitame le ishto psula. Par contre, il ne peut pas se rendre impur pour sa femme qui est pas soule ou qui n'a pas le droit d'être mariée avec lui. Dans notre cas donc, où il s'agit d'une femme qui n'a pas le droit de rester avec son mari, c'est pourquoi le mari ne se rendra pas impur pour elle. L'agmar reprend le passage de la Mishnah qui dit Veloze beze zakaim bimtiata. Ni son premier ni son second mari n'auront de droit sur ce qu'elle trouve. L'agmar explique Tama maya mura banal mitziata ishalebala. Pourquoi est-ce que les chachamim ont dit que ce que la femme trouve revient au mari? Qui écrit de l'autre et avele eva, pour ne pas qu'il y ait des disputes entre eux. Hacha. Par contre, dans l'autre cas où les chachamim veulent exhorter le divorce, tehavele eva beva. Au contraire, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des disputes, au contraire, même les chachamim, pour ainsi dire, encourageraient les disputes. Et donc, l'agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que ni le premier ni le second mari n'auront de droit sur ce qu'elle gagne. L'agma explique, pourquoi est-ce que les chachamim ont dit que ce que la femme gagne revient au mari, puisque son mari la nourrit. Hacha qui va de mezoné l'etla. Là, dans notre cas, puisque le chachamim ont dit qu'elle ne reçoit pas de pension alimentaire et aucun de deux maris ne la nourrit, ma'aseya deha l'avdide. Donc ce qu'elle gagne ne revient à aucun des maris. L'agma reprend le passage de la Mishnah qui dit velo nefer nedereha, et aucun des deux maris n'aura le droit d'annuler ses vœux. L'agma explique tama ma'ama rachmana ba'al nefer. Pourquoi est-ce que la Torah dit que le mari a le droit d'annuler les vœux de sa femme, kedesh lo tidgane, pour ne pas qu'elle soit rabaissée à ses yeux? En effet, comme la Torah l'explique dans Parashat Matot et comme c'est expliqué dans Masechet Nedarim, les seuls vœux que le mari a le droit d'annuler, ce n'est que les vœux qui soit ceux qui feront souffrir la femme et donc cela nuit au mari, ou bien ceux qui nuiront à l'harmonie qui règne entre eux. Hacha, titgane vetitgane. Alors ici, au contraire, puisque les chachamim les exhortent à divorcer, au contraire, ça ne nous dérange pas qu'elle soit rabaissée aux yeux du mari, c'est pourquoi aucun des deux maris ne pourra annuler les vœux de cette femme. Nous avons fini ici le shiur de Yebaman Daftzadeh. Nous commençons le shiur de Yebaman Daftzadeh Aref. Nous commençons Daftzadeh Amudbet en bas de la page. Nous parlons toujours de la femme qui s'est mariée à la suite d'un témoignage d'un seul témoin et que son mari est revenu. Là-dessus, l'agma reprend le passage de la Mishnah qui dit « Haïta bat Israël nifsela mina keuna » Si c'était une bat Israël, elle sera pas soule pour la Kohana, c'est-à-dire elle ne pourra plus se marier avec un Kohen.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.